Chers frères et sœurs, ce livre des Proverbes est assez connu au-delà des cercles juifs et chrétiens, parce que c'est un recueil de phrases, une collection de phrases, qui peuvent constituer une sorte de sagesse populaire dont on se dit qu'elle est particulièrement nécessaire pour savoir comment se conduire dans la vie et avoir une vie bonne. Ce sont des phrases que l'on pourrait qualifier de bon sens, le bon sens à mettre en action. Si je prends le verset suivant, par exemple, le verset 7 de ce chapitre 22, il indique que l'emprunteur est l'esclave de celui qui lui a prêté de l'argent. Évidemment, on comprend que c'est un avertissement utile pour toute personne qui désire contracter un crédit, qui doit bien savoir qu'il est pieds et mains liés en quelque sorte à son créancier. Mise bout à bout, toutes ces phrases constituent un univers de sagesse auquel nous avons le désir de prêter foi, puisque cela fait partie des phrases bibliques auxquelles nous accordons évidemment de la valeur en matière de foi. Et quand on y prête attention, cette succession de phrases de sagesse peuvent constituer une morale. Le livre des Proverbes peut être un recueil constitutif d'une morale que l'on pourrait qualifier de morale judéo-chrétienne. Et certainement, le livre des Proverbes a-t-il contribué à forger cette sagesse judéo-chrétienne, une morale, un ensemble de préceptes à suivre à la lettre pour atteindre la félicité. Toutefois, lu dans le détail et en revenant à la langue hébraïque, et pour ce verset spécifique, il ne sera pas possible de revenir à la traduction grecque de la Septante, car ce verset n'est pas traduit dans la Septante, dans la traduction grecque. Et peut-être que nous pourrons d'ailleurs y trouver une raison au terme de la prédication que je vais essayer de vous offrir. Parce que le texte hébreu est beaucoup plus subversif qu'il n'y paraît à la lecture de nos traductions françaises qui ont souvent été dans le sens de la morale plutôt que de l'évangile subversif. Et c'est ce que nous allons découvrir à travers ce verset que vous avez choisi pour votre film. La méditation méticuleuse de ces phrases donne souvent plus à penser que ne le ferait un ordre appliqué de manière automatique. Et prenons tout de suite le verset biblique dans sa traduction faite par Louis Segond et dans une traduction plus littérale que je vais essayer de vous offrir. Je vous redis comment cela est dans notre Bible, enfin dans l'une de nos éditions bibliques. Instruit l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vu, il ne s'en détournera pas. En hébreu, ce serait entraîne, et non pas instruit, le jeune homme, l'enfant, c'est à peu près pareil, sauf que l'enfant, c'est un côté infantilisant quand même. Et puis ensuite, c'est sur la bouche de son chemin, et non pas sur la voie qu'il doit suivre. Entraîne le jeune homme sur la bouche de son chemin, et quand il vieillira, il ne s'en détournera pas. Reprenons ces différents éléments qui varient avec notre traduction, celle à laquelle nous sommes habitués. Plutôt que l'instruction, l'entraînement. Et ça, c'est quelque chose qui me semble tout de suite très important pour vous, parents, parrains et marraines. Nous avons trop souvent l'impression que la responsabilité des adultes chrétiens, c'est d'inculquer des valeurs chrétiennes à nos enfants. D'ailleurs, le terme de valeur chrétienne n'a pas été oublié dans vos engagements. Ils n'ont pas utilisé le verbe inculquer. Mais moi, je l'entends souvent dans mon bureau pastoral, dans les premiers entretiens avant le baptême. Comme si les parents pensaient que face au pasteur, il fallait montrer que nous étions à la hauteur de notre vocation chrétienne et que la vocation chrétienne consiste à inculquer les valeurs chrétiennes à ses enfants. Je pense qu'il en faudrait peu pour que nous disions qu'il faut inoculer des valeurs chrétiennes à nos enfants. D'autant que par rapport au baptême, on pense souvent que le baptême quand même est là pour protéger nos enfants. Et que si les valeurs chrétiennes pouvaient être une sorte de vaccin qui empêche nos enfants d'avoir toutes sortes de problèmes, ce serait parfait. Le baptême pour nous protéger du danger mortel de l'existence. Les valeurs chrétiennes comme vaccin pour nous protéger des valeurs mortelles de l'existence et faire en sorte qu'ils ne se détournent jamais de la voie chrétienne. Instruire, inculquer, sont différentes manières de dire qu'il faut se conformer à un modèle de croyance, à un modèle de vie, construit sur des valeurs éternelles qui ne peuvent pas être remises en cause parce qu'elles ont un caractère sacré. Dans cet ordre d'idées, nous pourrions évoquer une valeur qui semble aussi évidente qu'indiscutable, l'amour du prochain. Là, vous me direz, l'amour du prochain, ça ne se négocie pas. C'est notre ADN tout de même. On est bien au christianisme en parlant de l'amour du prochain. Vous allez nous en parler à Théologia de l'amour du prochain. Vous allez même faire mieux que cela, vous allez aimer votre prochain pour lui montrer à quoi ça ressemble l'amour du prochain. Mais quand on y pense, qu'est-ce que votre prochain? Est-ce que c'est celui qui est sur le même banc que nous dans l'Assemblée dominicale? Est-ce que c'est celui qui a comme nous une croix et une autre autour du dos? Est-ce que c'est celui qui a une Bible sous la main? Est-ce que c'est celui qui fréquente une assemblée religieuse une fois par semaine? Vous voyez, on élargit le cercle au fur et à mesure. De qui suis-je le prochain? C'est une question à laquelle le Christ Jésus nous rend attentifs dans l'Évangile selon Luc. Et qu'est-ce qu'aimer? Qu'est-ce qu'aimer? Autrement dit, les valeurs chrétiennes méritent d'être pensées. Aussi bien pour en découvrir le contenu, car évidemment, il ne s'agira pas d'aimer son prochain comme on aime une tarte à la fraise, par exemple. Mais il y a aussi la question de la limite. Jusqu'où quelqu'un est-il mon prochain? Certains diront que notre prochain, c'est le chrétien. Et le reste, c'est autre chose. Donner du sens à ce qu'il y a autour de nous et à ce que nous faisons, voilà qui semble beaucoup plus intéressant que de dire simplement quelles doivent être les valeurs chrétiennes. Car bien sûr, personne ne dira qu'il ne faut pas aimer son prochain. Mais beaucoup auront une notion très différente de ce qu'est l'amour et de ce qu'est le prochain. Et c'est là-dessus que nous devons axer notre entraînement, l'entraînement à la foi chrétienne. Être capable d'avoir une compréhension de celui qui s'approche de nous, fidèle à l'enseignement de Jésus, et être capable d'aimer non pas à la mesure de nos envies, auxquelles nous n'aimerons que ceux qui sont aimables, mais à la mesure de ce que Jésus a révélé. Et c'est là que nous découvrons qu'il faut aussi aimer nos ennemis. Et pour cela, nous n'avons pas forcément besoin de grands discours. Nous avons besoin de pratique, d'entraînement, justement. Bien entendu, il faut mettre des mots sur nos expériences. Il faut rendre notre vie explicite pour Calogène. Il faut expliquer ce que nous faisons, pourquoi nous le faisons, et pourquoi nous ne faisons pas certaines choses aussi. Nous pouvons expliquer pourquoi nous ne nous signons pas en entrant dans un temple. Nous pouvons expliquer pourquoi nous considérons que celui qui n'est pas français ou chrétien est tout autant notre prochain qu'un membre de notre propre famille. Mais cela ne peut pas nous dispenser de ce qui est à vivre en chair et en os. La foi chrétienne est une affaire d'incarnation. La parole se fait chair. C'est la raison pour laquelle on ne peut pas se contenter de l'instruction. Il faut de l'entraînement. Il faut s'engager de tout son être dans cette histoire-là. Entraîner, c'est faire et faire encore le même geste, jusqu'à atteindre la perfection. C'est aller à la rencontre et encore à la rencontre de l'autre pour découvrir qui est vraiment notre prochain, par exemple, et atteindre une sorte de perfection dans l'art de la rencontre, dans l'art d'être en relation avec autrui. C'est fréquenter les textes bibliques avec régularité pour forger une sensibilité aux règles de Dieu et y revenir encore. Parce que, évidemment, notre quotidien nous éloigne toujours de cette espérance contenue dans le livre biblique. Il y a tellement de problèmes à régler au jour le jour que l'espérance s'estompe bien souvent. Les textes bibliques sont là pour ressusciter notre sensibilité à l'espérance contenue dans les textes bibliques. Et pour cela, les textes bibliques sont vraiment un terrain d'entraînement. Une église, un temple, est un lieu d'entraînement. C'est une salle de musculation pour l'intérieur de notre existence. L'éducation chrétienne pourrait donc ne pas être simplement l'histoire d'endoctrinement, mais l'histoire d'un entraînement. Entraînement à la vie selon ce que Dieu nous donne d'espérer. Sachant que notre langue française autorise cette belle ambiguïté par laquelle entraîner consiste aussi à conduire quelqu'un sur un chemin, consiste à engager quelqu'un sur un chemin. Et c'est le sens de la deuxième partie de notre verset biblique. Le chemin, il en est justement question. Dans la Bible hébraïque, le chemin est régulièrement une image pour parler de la loi de Dieu. C'est une métaphore de la loi divine. La loi est comprise comme un chemin vers le salut. Je dis bien la loi de Dieu et non pas la loi des hommes, qui, elle, est destinée à organiser la vie commune. La loi de Dieu, qui ne s'identifie jamais exactement avec les paroles humaines, ne devrait donc jamais être comprise comme une morale. La morale qui est développée pour organiser la vie commune n'est jamais exactement la loi de Dieu. La loi de Dieu, c'est un chemin qui nous attire vers une vie toujours plus marquée par la joie, toujours plus marquée par des satisfactions profondes. La loi de Dieu, le philosophe Paul Ricoeur le dit très bien, est de l'ordre de la promesse. Il faut comprendre la loi de Dieu non pas comme une morale qu'il faudrait appliquer aveuglément, mais comme une promesse qui nous attire. Qui nous attire vers au-delà de ce à quoi nous sommes habitués. La loi de Dieu, par conséquent, ne s'écrit jamais à l'impératif. La loi de Dieu s'écrit toujours à l'indicatif, que ce soit au présent ou au futur. Revisiter le décalogue, revisiter les 10 paroles qui sont au cœur de la révélation sur le mont Sinaï, tout est conjugué au futur de l'indicatif, ou du moins, selon la langue biblique, à l'inaccompli. Le décalogue s'écrit en termes de « tu ne tueras pas ». Je te le promets, un jour, tu ne seras plus l'esclave des pulsions de mort, et tu cesseras de tuer. Et ainsi de suite. C'est de l'ordre de la promesse. Dans ce verset du livre des Proverbes, il convient donc d'entraîner les jeunes gens sur la bouche du chemin. Autrement dit, de les entraîner jusqu'à l'orée, de les conduire sur le seuil de la loi divine et de les exercer sur ce commencement de la loi. Autrement dit, il s'agit de les initier et de laisser faire. Il n'est pas question de les prendre par la main et de faire tout le chemin avec eux. Dans ce verset biblique, on les met en situation de pouvoir emprunter ce chemin, et après, c'est de la responsabilité de chacun d'emprunter ou non ce chemin. Il ne s'agit pas de les conduire d'un point A à un point B, par tous les moyens, coûte que coûte, par la manière forte. Il ne s'agit pas de les faire atteindre un niveau précis non plus. La formation chrétienne n'est pas diplômante. Dans quelques semaines, lors du culte de Pentecôte, les catéchumènes qui recevront la confirmation de la grâce exprimée lors de leur baptême ne pourront pas se prévaloir d'avoir vu la moyenne à leur examen de catéchisme. Pour la bonne et simple raison qu'il n'y a pas d'examen de catéchisme. Mais la vigilance des pasteurs et de la communauté, que ces catéchumènes ont le désir de continuer à aller un peu plus loin après avoir été conduit sur la bouche du chemin. Ce désir, cette curiosité, l'envie d'en savoir plus, l'envie d'en vivre plus, ce désir de continuer, mais il n'est pas question de sanctionner un point d'étape ou un niveau qui aurait été atteint. Ce qui compte, c'est de se mettre en route, c'est de s'engager sur la bouche du chemin. Adhérer à la foi chrétienne ne se mesure pas à l'intensité de l'adhésion comme on pourrait calculer le coefficient d'adhésion d'un objet collé sur une paroi. Ça, c'est pour les grenouilles de bénitier. C'est pas pour les croyants. Être croyant, c'est passer la bouche du chemin, être animé par cette curiosité qui nous attire vers Dieu. C'est dire oui, même en le balbutiant. Ce balbutiement suffit. C'est être chercheur de Dieu. C'est être chercheur de vérité. La vérité de la condition chrétienne, pour reprendre l'image du naturaliste Théodore Monod, c'est d'être apprenti croyant. Nous n'en finissons jamais d'avancer sur le chemin de la loi de Dieu. Nous n'en finissons jamais d'avancer sur le chemin de la foi. N'en finissons jamais de préciser notre image de Dieu, de réformer notre théologie, notre compréhension de Dieu. N'en finissons jamais de découvrir ce qui est une vie bonne. Et c'est la raison pour laquelle il est précieux que vous ayez choisi un parrain et une marraine, mais il est aussi précieux que ce baptême s'inscrive dans une vie communautaire et que Calogel puisse être au bénéfice de l'expérience des aînés, d'une génération au-dessus, de deux générations au-dessus. C'est la raison pour laquelle il est précieux d'avoir des communautés ecclésiales marquées par leur caractère intergénérationnel. Parce que les aînés n'ont pas simplement le cuir taillé, ils ont aussi accumulé une expérience qui les a fait avancer sur ce chemin de la foi et qui leur permet de rendre compte de l'expérience qu'ils ont accumulée pour faire gagner du temps à nos jeunes baptisés. Et les engager plus profondément sur ce chemin de vie porté à son inconnaissance. L'entraînement plutôt que l'instruction. La bouche du chemin plutôt que l'intégralité de la voie. Et puis, soyons précis, ce n'est pas le chemin qu'il doit suivre, ce n'est pas le chemin qu'elle doit suivre, c'est son chemin. Dans le texte, son chemin. S'entraîner sur la bouche du chemin, et plus précisément, comme nous irons attentifs, cette traduction littérale, son chemin, cela nous fait penser par exemple au psaume 23. Un psaume que nous connaissons trop bien pour le méditer sérieusement. L'Éternel est mon berger. Il me conduit où ? Il me conduit dans les sentiers de la justice. Non pas dans le sentier, un sentier qui vaudrait pour tous. Il me conduit dans les sentiers de la justice pour que nous puissions trouver notre propre chemin de justice. Ce proverbe, ici, attire notre attention sur le fait que l'éducation ne devrait jamais être une manière de conformer les jeunes gens à un modèle, disais-je. Il convient plutôt de découvrir le chemin personnel des jeunes gens et de les encourager sur cette voie-là. À la limite, on pourrait presque dire peu importe le chemin, pourvu que ce soit un chemin qui lui corresponde. C'est-à-dire un chemin qui soit adapté à ses aptitudes à son appétit, aux compétences que ce jeune homme, cette jeune femme, est en capacité de développer. Nous devrions toujours encourager les jeunes gens sur la voie qu'ils empruntent. Peut-être même et surtout si ça ne nous convient pas beaucoup. C'est peut-être le signe, mais il ne faut pas en faire une règle, que c'est justement une voie précieuse pour eux. Nous devrions toujours encourager les jeunes gens pour autant que cette voie ne les éloigne pas de l'horizon dressé par Dieu. Et c'est là que se pose toute la question de l'éducation chrétienne. Qu'est-ce qui plaît à Dieu? Peut-être pouvons-nous le dire de manière négative au moins, en disant ce qui ne plaît pas à Dieu, anthropomorphisme pour dire ce que ne serait pas une vie bonne. Et il me semble que les béatitudes que l'on trouve au chapitre 5 de l'Évangile selon Matthieu pourraient nous aider à constituer quelques critères qui nous permettent de savoir ce que n'est pas une vie bonne, en laissant entendre que tout le reste est possible. Je dirais du coup, peu importe le chemin, pourvu qu'il n'empêche pas d'être humble, pourvu qu'il n'empêche pas d'être solidaire, d'être assoiffé de justice, d'être responsable, etc. Toutes choses auxquelles les béatitudes nous rendent attentifs. Son chemin et pas le nôtre. Il y a dans ce proverbe quelque chose qui correspond à ce conseil que vous aurez vu si vous êtes rendu dans une auberge de jeunesse du côté de Brisbane. Il y a écrit en jaune sur le toit d'ardoise cette maxime de Ralph Waldo Emerson qui a un caractère très proverbial. N'allez pas là où le chemin peut mener. Allez où il n'y a pas de chemin et laissez une trace. Du coup, vous n'avez pas à Brisbane. C'est là que nous constatons que ce verset des Proverbes, à l'image de la Bible, n'est pas un traité de morale judéo-chrétienne, destiné à consolider le monde, à le rendre immobile. Ce verset est un encouragement à faire valoir nos propres aspirations, à frayer notre propre voie, à ne pas anesthésier notre conscience personnelle, à ne pas sacrifier notre âme sur l'autel d'un bien commun qui ne tiendrait pas compte de nous. Peut-être est-ce la raison pour laquelle ce verset n'a pas été traduit par la Septante. Ça serait à explorer. Chacun de nous a sa voix à faire valoir dans le concert du groupe auquel il appartient. Ici même, dans l'Église, dans notre société, dans le monde. C'est ce que déclare le baptême, qui souligne que nous avons une valeur unique aux yeux de Dieu. Et cela, dire que nous avons une valeur unique aux yeux de Dieu, c'est une manière religieuse de dire que le monde, l'histoire humaine, ne seront pas aussi éclatants de vitalité, de beauté, de justice, si nous ne suivons pas notre propre chemin. Le monde, l'histoire universelle, seront dépassés si nous mettons nos pas dans les pas de ceux qui nous ont précédés en veillant scrupuleusement à ce que nous ne nous écartions pas d'un centimètre de la voie qu'ils ont tracée. Je reviens un instant sur le côté subversif du texte maçonnétique. Vous savez que dans la tradition juive, il y a la loi écrite et la loi orale. Il s'avère que la loi orale est également écrite. C'est le Talmud. Le Talmud. Le Talmud qui est en fait une source de dialogue, une source de conflit d'interprétation, plutôt qu'une règle qu'il faudrait suivre à la lettre. Il y a au sein du Talmud, délibérément, des propos contradictoires qui nous obligent à être responsables de notre interprétation. Il y a des injonctions paradoxales dans le Talmud qui nous obligent à exercer notre liberté véhiculeur. Le Talmud, c'est un mot qui se construit sur le verbe hébreu lamad, enseigner. Lamad, ça s'écrit avec un lamed, un mem et un dalet. Et si vous allez en Israël et que vous regardez un peu les circulations, vous verrez qu'il y a des voitures avec un L, un lamed, parce qu'ils sont en apprentissage, c'est notre A, en fait, comme apprenti. Lamad. Emmanuel Elias relevait, à juste titre, que la langue hébraïque est une langue qui s'écrit tout à l'inverse de la langue française. Non seulement ça s'écrit de droite à gauche, donc si je fais un défi miroir, ça s'écrit comme ça pour vous, mais ça s'écrit en attachant les lettres en haut. Nous avons une ligne, nous mettons les lettres sur la ligne. En hébreu, toutes les lettres sont collées sur la ligne supérieure. Et rien dépasse, sauf le lamed. Le lamed qui signifie enseigner, c'est la seule lettre qui transgresse cette règle. C'est la seule lettre qui dépasse la limite. Enseigner, c'est dépasser. Enseigner, c'est transgresser. Enseigner, c'est subversif. C'est de notre propre vie qu'il s'agit de ne pas se détourner. Tout le reste, faites-en bon usage, mais faites-en usage. C'est notre cap qu'il faut tenir jusqu'au bout, quitte à ce que nous nous réorientions de temps en temps, comme le navigateur qui tire des bords, parce qu'on ne peut pas aller en ligne droite. Ce n'est pas la voie des autres qu'il faut suivre. Ce n'est pas la ligne commune sur laquelle il faut se positionner. Entre elles, c'est un impératif. Le jeune homme sur la bouche de son chemin, et il ne s'en détournera pas. C'est un futur. Entraînez-le maintenant à vivre. Entraînez Talojad à vivre maintenant. Entraînez-la, vraiment. Faites exploser son univers de possibilités. Et elle poursuivra sa quête à jamais. Amen.